tout le monde et bienvenue sur la première émission de l'année de Bibliopotine. On vous souhaite une bonne année et nos meilleurs voeux. Bonjour Jean, bonjour JC, bonne année.
Bonjour à toi Guillaume.
Bonjour
l'émission
tout le monde.
Des médiathécaires en présence de Guillaume médiathécaire sur celle de Breteuil sur Iton.
Exactement.
Et de Jean qui est médiathécaire sur la médiathèque de Verneuil, Davre et Diton.
Oui, bonjour.
Au sommaire de cette émission, de quoi parlerons-nous ?
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier, un petit peu complexe, c'est-à-dire la musique en médiathèque.
Quand on parle médias de médiathèque, on parle bien entendu des livres, ça on a l'habitude depuis la création des lieux médiathèque-bibliothèque, on parle de vidéos, on parle de art dans certaines médiathèques, on parle de jeux vidéo, on parle de tout ce qui est média, et du coup aussi de la musique, mais qu'en est-il au XXIe siècle? Ça c'est ce dont nous vous parlerons.
C'est la problématique ça.
Nous ferons un petit tour du côté des coups de cœur également, de ce que vous avez croisé, on garde le suspense, et nous terminerons avec les rendez-vous des médiathèques du sud du département pour conclure cette émission.
Exactement.
Ce sera entrecoupé de musique de votre choix, et nous partons tout de suite sur le premier sujet.
Qu'est-ce que ce journal foutit qu'il ne nous dit pas ?
Ce qu'il me dit, c'est que les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler.
Donc, la musique en médiathèque, de quoi on parle exactement ? Donc, Jean le confirmera, mais en médiathèque, généralement, quand on dit musique, on dit rayon musique avec des CD, et parfois, à quelques rares exceptions, des vinyles, et en général, ça s'arrête là. Si on va mettre de côté pour l'instant tout ce qui est spectacle en médiathèque, mais quand on parle musique, c'est vraiment ce rayon, donc rayon CD. Jean, qu'est-ce que tu veux en dire ?
J'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur un petit mémo très sympathique du groupe Régional Franche-Comté de l'Association des bibliothécaires de France, et ce document fait un récapitulatif très utile sur l'histoire des bibliothèques musicales en France. Et la première à jamais, comme ils disent, c'est la Bibliothèque nationale de France, parce que la musique, comme les livres, ça se conserve via le dépôt légal, et le dépôt légal des phonogrammes date du 19 mai 1925 et son décret d'application du 8 avril 1938. Et il faut savoir que quand à la BNF on commence à conserver les documents sonores, musicaux, et la France est en retard par rapport à d'autres pays, et en fait la première discothèque de prêt public, c'est la discothèque de France en 1960, et on est en retard de plusieurs années sur les autres pays. Et la création de la discothèque de France, c'est intéressant, c'est Jean Villard du TNP, Festival d'Avignon, qui découvre avec son acolyte Jean Rouvet des discothèques de prêt dans les bibliothèques universitaires des campus universitaires américains lors d'une tournée de sa troupe de théâtre. Et il importe le concept en France, et c'est comme ça que naît la discothèque de France en 1960, avec d'abord des disques classiques et jazz, ensuite un rayon pop, etc. Donc ça c'est les pionniers, et puis après le vinyle se prête en médiathèque, le prêt du vinyle se généralise, puis le prêt du CD. Et il y a ce qu'on peut observer du point de vue des collections, c'est que, notamment depuis une dizaine d'années, les prêts de CD en médiathèque sont en chute libre d'environ 75% entre 2013 et 2023. Ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur le forum Agorabib, le forum de discussion des bibliothécaires. Et donc, si on se place du strict point de vue des collections, la situation actuelle n'est pas très très rose, mais cette chute, elle avait été anticipée depuis un moment par les professionnels, mais la les réponses à cette chute attendue et qui est aujourd'hui effective, eh bien, on va en discuter.
Alors, la façon de consommer la musique n'a pas toujours été la même, et on se rend bien compte que, en fait, c'est peut-être aussi à ça qu'est lié la chute de l'empreinte du disque, en fait, sur les modes de consommation de la musique.
Ah, bah exactement. La fin de l'autoradio dans les véhicules, par exemple. C'est le fait qu'on ne produise plus de lecteurs CD pour le domicile. La platine vinyle a tendance un peu à revenir, mais le lecteur CD, pour en trouver un, en général, bonne chance. Donc, effectivement, quand des personnes viennent en médiathèque et voient leur CD, regardent ça et se disent « Oui, bon, bah, oui, il y a ça, mais j'ai rien pour le lire, c'est ça qui ressort le plus souvent. Oui, j'ai pas de lecteur CD, oui, mais il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures. » Donc, en fait, ça leur sert à rien, puis... Le fait, c'est qu'ils y ont directement accès à cette musique via les plateformes comme Deezer ou Spotify ou Amazon Music. Et ils ne sont pas obligés, par exemple, d'écouter tout l'album. S'il y a des titres qui ne leur plaisent pas, ils peuvent vraiment faire leur sélection. Donc les habitudes ont complètement changé. Hein, ça n'a plus rien à voir. Hein. C'est un peu aussi une problématique de la radio, d'ailleurs, comment faire face aux plateformes quand on est une radio musicale. Ça aussi, la question se pose.
Et alors, en même temps, donc ce que observent les professionnels, c'est que il y a une extension de la pratique musicale parmi les Français. Donc, il y a un déplacement à anticiper pour passer d'un concept de collection musicale à un concept de lieu de développement de la culture musicale. Et c'est pas forcément simple parce que il faut de la place, il faut du matériel, et puis il faut pas marcher sur les plates-bandes d'écoles de musique, etc. Donc c'est une place complexe à déterminer, mais on y réfléchit, et par exemple, Guillaume va pouvoir nous parler de l'introduction de la musique à Breteuil, puisque j'ai vu qu'il y a des choses qui se font.
Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement, Jean?
Eh ben, par exemple, j'ai oublié de prendre ma flûte à bec. J'étais dans le temps un ancien grand espoir de la flûte à bec française. Pourquoi rigolez-vous? C'est pas vrai, en fait. Mais si, j'ai fait de la flûte à bec. Et imaginons que quelqu'un veut faire de la musique à Breteuil. Ben, comment il fait?
Bah, c'est très simple, il vient à la médiathèque et on n'a pas de flûte à bec, hein, désolé, on a autre chose, mais le lecteur peut, plus l'adhérent là, qu'un lecteur évidemment, peut emprunter un instrument de musique, étant donné que nous avons 10 packs d'instruments de musique disponibles à la médiathèque de Breteuil en prêt gratuit.
Alors, quand on parle d'instruments de musique, de quoi parlons-nous en fait? C'est quel type d'instrument?
On a des instruments à cordes, on n'a pas d'instruments à vent par contre, donc on a plusieurs guitares, on a quelques instruments à percussion, donc un tong drum et un caron, on a aussi un ukulélé d'ailleurs, j'essaye de prendre la liste de tête, mais oui, on a tout ça, on a un clavier.
Voilà. Et d'où vient ce matériel?
Alors, ce matériel a été acheté et prêté aux médiathèques par la médiathèque départementale de l'Eure. Donc, c'est de leur nouveau projet pour fin 2025 et 2026. Et donc, nous avons été sélectionnés pour, on va dire, le test, vu qu'on était premiers à recevoir ce matériel. Et pour l'instant, autant dire que ça marche très très bien, parce que les CD... Je vais pas vous le cacher, ça continue à s'effondrer. Je crois que l'année dernière, on a prêté moins de 70 CD sur un an. Et là, le matériel musical, les guitares ont eu un peu de mal au début, mais ça sort très régulièrement. Il y a certains instruments comme le tong drum qui sont sur liste d'attente et qui, sans doute, ne pourront pas être empruntés jusqu'à leur départ, parce que là, il est réservé jusqu'à début avril. Autant dire qu'après, il reste que un mois pour, enfin même pas pour le prendre et l'utiliser. Donc ça marche vraiment très très bien, et pour l'instant, bah, c'est du prêt gratuit, on n'a eu aucun problème avec les emprunts. Donc c'est une bonne chose, ça permet à des personnes qui pratiquent déjà de découvrir des instruments, d'autres qui s'intéressent et qui ne veulent pas forcément prendre un cours immédiatement, bah, de découvrir la pratique d'un instrument. Et d'ailleurs on a une personne qui après est allée s'inscrire au cours de musique à l'association du parc. Donc c'est une affaire qui roule, j'ai envie de dire.
Ah super, bah voilà, je découvre en fait, c'est t'as combien de mois de rec... tu l'as pour 6 mois, 1 an
On les a eu fin octobre si je dis pas de bêtises, et on les a jusqu'à début mai.
Voilà, et du coup après tu vas voir si tu investis après cette expérience.
Là, étant donné le succès que ça a, c'est pertinent d'investir après, à voir si nos élus, nos futurs élus d'ailleurs, seront en accord avec le projet qu'on leur présentera.
Ah bah justement, ça tombe bien, c'est le début de l'année, c'est le moment où on doit préparer notre argumentaire budgétaire, donc voilà, je le note.
Ouais, il est déjà fait, mais bon, on a fait ça en fin d'année dernière. Donc ce sera pour 2027.
Sur le rapport à la musique, j'aimerais bien prendre juste un pas de côté ou un pas en arrière pour venir vous questionner un petit peu sur comment vous appréhendez votre mission autour de la musique, comment vous vous positionnez comme facilitateur, comme lieu de découverte, comme lieu d'incitation, j'imagine que la démarche autour de la musique doit être différente que celle autour du livre.
Alors moi j'ai peut-être un peu plus de recul parce que je travaille depuis 20 ans, j'ai travaillé dans des grosses structures, des structures moyennes, des petites structures, et ce qui ressort de cette expérience, c'est que il y a 15 ans, quand j'ai commencé, le vol de CD était un vrai souci, donc on était un peu... tendu par rapport à ça, et voilà, et maintenant c'est plus tout à fait la même chose, et mais je me souviens de d'événements qui étaient vraiment intéressants à la médiathèque Marguerite Yourcenar. On était une grosse structure, il y avait 40 personnes, et il y avait de quoi faire un groupe de musique, et notamment dans l'équipe de discothèque, il y avait le leader des soucoupes violentes, Stéphane Guichard, que nous écouterons tout à l'heure, et un acolyte, enfin il y avait plusieurs musiciens dans l'équipe, et on a fait un concert avec une chanteuse qui travaillait en jeunesse, et c'était génial parce que mais c'était un événement. Alors moi je trouve qu'il y a une solution, il faut essayer de, si on a des prédispositions pour la musique, pour le chant, c'est pas mal si on nous écoute chanter et jouer de la guitare. Mon collègue Guillaume fait de la guitare pour l'heure des petits, avec sa collègue discothécaire qui chante des comptines et des chansons, et auprès des enfants c'est génial parce que ils nous voient diffuseurs de musique, et ça c'est super quoi.
Et comme quoi, on voit que les habitudes ont changé, parce que je sais pas si tu te souviens, Jean, bon, moi j'étais ado à l'époque, toi t'étais peut-être déjà un peu plus âgé, mais...
Oh, gratos, ouais, gratos.
J'ai dit un peu, j'ai pas dit que c'était un boomer, attention.
Né sous Georges Pompidou. Hein.
Ouais, oh là là, désolé pour toi. Mes condoléances, Jean. Il y a 20-25 ans, je ne sais pas si tu te souviens, mais les médiathèques, c'était quand même un des centres névralgiques du piratage de musique, étant avec tous ceux qui avaient un graveur, dont moi, on allait en médiathèque, il y avait des écriteaux, ne pas graver les CD, sauf qu'on prenait les CD, on rentrait, on les gravait, on les ramenait, et en fait... ça tournait comme ça, quoi. Je sais pas si tu te souviens de ça.
Bah si, tu étais un tueur, si t'avais sur ton ordinateur 10 000 titres, t'étais un bonhomme, quoi.
Ouais, ça prenait de la place à l'époque. Le PC surchauffait.
Mais même avant le graveur, la cassette, enfin, je me souviens avoir copié des cassettes audio qu'on nous vendait vierges, même en grande surface, par gros package, là. Et puis, on mettait sur sa chaîne lecture du CD, enregistrement sur la cassette, et on récupérait l'album comme ça. Hein.
Ouais. Oui, oui, c'est exactement.
Et c'était un partage. C'était un partage. On partageait la musique comme ça, c'est vrai.
Oui, aujourd'hui, on est là avec le piratage illégal des fichiers sur Internet, mais en fait, c'était le même principe. Hein.
Et on touche et c'est là une difficulté supplémentaire. Maintenant, la musique se partage en ligne. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne se voient pas. Mais partage la musique, ça c'est possible sur YouTube, il y a la section commentaires, alors les gens sont à des milliers de kilomètres de distance, mais ils partagent la musique, mais c'est en ligne. Et donc il y a quelque chose qui manque certainement, le contact physique c'est quand même la relation à l'autre, dans le partage c'est important.
Justement, je me permets de me saisir de ce que tu viens de dire, qui est le partage de la musique, c'est-à-dire la recommandation individuelle face aux algorithmes. On en parlait parce que dans la façon de consommer la musique, aujourd'hui on consomme des titres plus que des albums, on se fait guider par un algorithme plus que par son pote qui prête la cassette, le CD, on découvre par ce qui fonctionne plus que par les rayons de la médiathèque. Dans tout ça, quelle place y a-t-il pour retrouver ces recommandations du connaisseur ou ces recommandations de ses pairs?
Des trajets en voiture.
Désolé, mais... Non, mais c'est une grande question, notamment par rapport à la radio. Quand on écoute la radio par rapport à quand on écoute, je sais pas, Deezer, Spotify ou peu importe, ou YouTube, en fait, la recommandation est faite par algorithme sans aucune maîtrise. Quand on écoute une radio, la sélection est faite, on découvre dans les deux cas, mais la sélection est faite par un humain qui a passé son expertise ou ses goûts à la moulinette de la proposition.
Ce qui peut être problématique parfois, parce que bon, les trajets en voiture, moi je sais que quand on les fait à plusieurs, bon bah on se recommande des musiques, on va sur Spotify ou Deezer ou autre, puis on choisit chacun un morceau, voilà, qu'on fait tourner. Un défaut, c'est que si vous écoutez beaucoup certaines radios, et là je parle pas de principe actif, mais par exemple des radios comme Chérie FM ou des radios de ce type, parfois, bah, si vous ne faites que ça, si vous mettez la radio le matin ou le soir en repartant, vous avez de la chance de vous taper par exemple deux fois Les Démons de Minuit. Enfin, ça tourne en boucle et des fois on se demande si certaines radios ne sont pas programmées par des algorithmes. Enfin, c'est aussi cette problématique-là.
Alors, Les Démons de Minuit, ça devrait être même interdit, même une seule fois. Hein. mais il y a aussi un autre truc que j'avais lu, alors je sais plus qui, je vais être très très flou, une fois de plus, du journalisme d'approximation, qui disait que globalement, on découvrait que très peu de choses après 28 ans. Ça veut dire que toute sa culture musicale, toute sa découverte, on la faisait avant 28 ans, et après 28 ans, on réécoutait ce qu'on connaissait. Majoritairement, pas exclusivement, mais majoritairement, on réécoutait ce qu'on connaissait. Ce qui fait le succès des nostalgies et compagnie. Hein.
Oui. Ah, j'avoue que c'est une très belle perche approximative qui est tendue, j'y sais, merci beaucoup, parce que qu'il y a heureusement un point positif, c'est que la section jeunesse propose des CD, des albums pour enfants, des livres disques, des histoires mises en musique, et le prêt de CD musicaux est supérieur très nettement à celui des autres collections pour adultes, et c'est là que justement je pense qu'on a vraiment encore un rôle important au niveau des collections, diffuser des jeunes artistes, programmer des spectacles pour la jeunesse. Là, la musique, elle s'incarne. On a eu des spectacles comme ça. On va continuer à en avoir. Et puis vraiment, ça, les enfants, ils sont à un âge où tant qu'ils n'ont pas leur smartphone entre les mains, pour eux, la musique, qu'elle soit sur CD ou sur vinyle, c'est de la musique et ça a un enchantement. Donc, voilà, moi, les collections musicales à destination de la jeunesse, il faut... Faut pas lâcher dessus. Et puis nous à Verneuil, on essaie de pas lâcher sur les collections adultes, quand même. Et puis voilà.
C'est quand même dans alors comme je disais, mon approximation était une moyenne, était alors c'est dommage que j'ai pas l'enquête en tête là, mais c'était une enquête sérieuse qui disait bah voilà, à partir de 28 ans on va plus redécouvrir on va dire ce qui fait ce qu'on est musicalement. Bien sûr qu'on va dire on écoute de nouveaux morceaux, de nouvelles choses, hein, notamment à travers la radio, les soirées et compagnie, mais finalement que le bagage culturel, musical, se fait jusqu'à cette période-là. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, généralement, en plus, le bagage théâtral se fait après. Dans l'accès à la culture, c'est rigolo, hein, comme quoi il y a certains éléments. Mmh. Voilà. Il n'y a pas plus d'analyse hein, que ça dans ce que je vous dis, mais en tout cas, ça questionne. Ça questionne sur la consommation musicale.
Mais c'est comme pour les livres, en fait. C'est-à-dire qu'enfant, on peut avoir accès facilement à la culture classique, au jazz, à tout ce qu'on veut. Et puis, si après, on a une période où, comme pour les livres, hein, on se détourne de ce qu'on a écouté quand on était plus jeune, mais après on y revient. Moi par exemple, je me rends compte que je suis encore très ému rien qu'au fait de savoir que c'est Beethoven qui a lancé le romantisme dans le piano, etc. C'est les compositions de piano, elles sont au 19e siècle. Enfin, c'est des choses qui me touchent de découvrir des choses comme ça. Le piano qui remplace le clavecin, parce qu'avant le clavecin, on ne pouvait pas maintenir la note, elles étaient frappées. Et puis après, il y a quelqu'un qui a trouvé une technique pour que la note soit maintenue. C'est génial d'apprendre ça. Voilà, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et si j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est parce que en fait, ma culture musicale, je l'ai faite quand j'étais gamin. Et donc, on revient. En fait, il faut donner aux jeunes les moyens de revenir vers une culture musicale, sachant qu'ils ont parfaitement le droit de s'en détourner. Et moi, par exemple, si vous me demandez le titre de l'année aux Victoires de la Musique, je suis incapable d'en citer un seul.
Moi non plus.
Oui, alors c'est quand on parle de culture musicale, c'est aussi la culture contemporaine. Il y a des grands artistes très clivants. Je pense à Jules, je pense à Yana Kamura, par exemple, qui sont d'aujourd'hui. Mais on peut en rire autant qu'on veut. Cependant, ils font partie de ce qu'on appelle une culture musicale.
Ah,
ils font partie de ça.
Mais alors, là, j'ai les mêmes rire qui viennent en tête, c'est pour
non,
ça.
Non, mais c'est, on peut en rire, effectivement, si on n'est pas prêt à ça, si ça ne s'adresse pas à la génération qui en rit, d'ailleurs. mais ça fait partie quand même aussi de ce qu'on appelle la culture musicale.
Et d'ailleurs, on achète Jules, on achète Kenji Girac, on achète, on propose, hein, on est englobant, on veut pas qu'il y ait une espèce de rapport de domination entre la culture musicale classique et la culture musicale contemporaine. Il faut donner accès à tout, et y compris dès le plus jeune âge, quoi.
Voilà. De toute façon, là, j'en rigolais parce que je vous ai dit, je pensais aux mèmes et à toutes ces choses-là, mais de toute façon, dès qu'un artiste ou plus simplement sa musique, son œuvre est détournée de cette façon, c'est qu'il y a un véritable effet sur la pop culture en général. C'est pas gratuit, quelqu'un dont on se fiche vraiment, en fait, on l'ignore et c'est assez vite oublié. Là, Jules, quand on voit toutes les parodies, les détournements qui en sont faites, ça restera un minimum. Voilà. Donc, autant dire qu'il faut essayer aussi d'attiser la curiosité, parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être le découvrir par ce biais-là et se demander « Mais Jules, en fait, ça sonne comment ?»
Voilà. Et alors, du coup, transition. Donc, Jules, on s'y intéresse. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de mettre en valeur la scène locale. Donc, des artistes du département, de la région. Et nous, à Verneuil, on est quand même un petit peu vernis, puisqu'on peut compter sur le Silo.
Salle de diffusion de musique actuelle.
Voilà. Donc, avec le Silo, on a fait un petit partenariat. Le Silo fait des blind tests mensuels qui marchent du tonnerre, qui réunissent près de 100 personnes, si je ne me trompe pas. Alors, nous, on propose 2 blind tests dans l'année. Et le Silo, gentiment, offre des places gratuites de concert à l'équipe gagnante. Donc, et on essaye de proposer thème années 80, ou alors notre soirée, ce sera à égalité chansons françaises et chansons internationales, etc. Donc, voilà, nous, notre rôle, c'est aussi de nouer des partenariats. On noue un partenariat avec l'école de musique et d'harmonie de Verneuil, qui vient faire des mini-concerts trois fois dans l'année. Et puis, on a une artiste locale à Verneuil qui s'appelle Digitus Novem, qu'on fait découvrir aussi. Voilà, il faut donner accès non seulement à la musique, mais aux personnes qui la pratiquent. Voilà.
Je vais vous proposer justement une pause musicale. Tu nous as alléché avec les soucoupes violentes. Quelques mots pour présenter le morceau et nous l'écoutons.
Alors, c'est le morceau le plus récent que j'ai trouvé du groupe. Donc, ça doit être le dernier album. Mais les soucoupes violentes, c'est un groupe qui a des dizaines d'années. J'aurais pu très bien proposer un morceau du leader Stéphane Guichard avec le leader des Wampas. Ça aurait été très, très rigolo aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment de la bouteille, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il l'a conservé. Et le titre s'appelle On t'aime toujours quand t'es mort, ou quelque chose comme ça.
Tout le monde t'aime quand t'es mort.
Voilà.
Soucoupe violente, un choix de Jean. Nous poursuivons, et juste avant de poursuivre, on va conclure quand même sur cet thème de la musique. Globalement, on l'a bien compris que le rôle en médiathèque était le petit pas de côté sur la découverte, sur la proposition, et aussi sur tout ce qui en déborde un peu, à savoir le prêt d'instruments de musique, l'organisation de concerts. C'est pas rare qu'il puisse y avoir des concerts proposés en médiathèque, ou même des partenariats, comme Jean nous le disait, avec les salles de diffusion et la médiathèque, et ça, ce n'est pas rare non plus. Vous aviez quelque chose peut-être à ajouter, oui, sur cette question de la musique en médiathèque?
Oui, face quand même à l'effondrement de l'empreinte CD, donc il va falloir expérimenter, donc proposer autre chose, essayer peut-être de proposer des vinyles si possible, donc les instruments de musique. Après, on nous parle aussi beaucoup de diffusion de musique en médiathèque, sachant qu'il y a la SACEM qui est impliquée dans ces choses-là quand on diffuse de la musique. Il faut essayer. Il va falloir tenter des choses parce que clairement le CD c'est le passé, c'est